c'est exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et...
soit même un discours un peu sérieux.
Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi à 10h et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour, bienvenue dans le Sonolab.
Aujourd'hui, une émission spéciale où nous donnons la parole à 8 chercheurs d'emploi, 8 chercheurs d'emploi qui ont été sélectionnés, informés par la Maison de l'Emploi de Bellevue avec qui nous sommes en partenariat. Sans plus attendre, on va leur laisser la parole puisque c'est eux qui concoctent cette émission de A à Z.
Bonjour, cette semaine, le Sonolab, c'est Radio Métier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous présenter. Nous sommes neufs, tout neufs, et ça en jette sur JetFM, qu'on aime. Pour vous plaire, au micro, là, c'est Olivier qui vous parle, avec, à mes côtés, par ordre topologique, Anna-Maria et Estelle.
Bonjour.
Bonjour.
Jariou.
Bonjour.
Ashta.
Bonjour.
Mirdamed.
Bonjour.
Adam.
Bonjour.
Jacques.
Bonjour.
César en régie.
Bonjour.
Alexandra à mes côtés.
Bonjour.
Et une invitée spéciale venue tout spécialement de Saint-Rémy-les-Chevreuses, vous voyez, c'est à côté de Versailles, région parisienne, Jade, une élève de 3e, en stage d'observation, que dis-je d'observation ? D'observation active, qui en plus a pris sur ses vacances pour venir nous aider. Bonjour Jade.
Bonjour.
Tous ensemble, nous avons réalisé 8 interviews autour de différents métiers. Nous allons en écouter 5 seulement. Les durées totales de l'émission ne permettant pas de diffuser, hélas, la totalité des entretiens très riches que nous avons pu enregistrer. Ces interviews ont été pour chacun d'entre nous l'occasion de nous découvrir, de découvrir certains métiers. Et peut-être en sera-t-il de même pour vous qui nous écoutez. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec une interview de Gabriella, comptable. Gabriella est interviewée par Mirdamed et Anna Maria est à la réalisation.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre métier ?
Alors, je m'appelle Gabriella et je travaille donc pour l'association de Jet depuis 6 ans. Et donc, le métier, les missions que j'occupe, je m'occupe donc de l'administration générale dans la structure, et donc en plus, tout l'aspect ressources humaines, comptabilité, formation professionnelle, les payes, voilà, donc c'est assez polyvalent, donc il n'y a pas que la comptabilité, mais c'est beaucoup, beaucoup d'administratifs au global pour la structure.
D'accord, et quelles sont les compétences pour ce poste ?
Les compétences, déjà il faut être... assez organisé parce que c'est beaucoup de papier. On peut pas dire à la fin de l'année au flûte il me manque une facture ou zut j'ai perdu un truc ou c'est pas bien rangé. Ça c'est pas possible parce que on doit pouvoir sortir tous les justificatifs de toutes les dépenses que la structure a faire ou à l'envers de tous les sous que on a pu recevoir. Et ça peut être très important, par exemple, un contrôle URSSAF, si on ne peut pas présenter tous les papiers, que ce soit de l'argent ou des papiers autres. ça peut être compliqué pour la structure et ça peut être des grosses amendes et passer du temps pas marrant. Donc il faut être très organisé, il faut être, assez rigoureux parce que la comptabilité, c'est du chiffre. Donc si vous vous trompez d'un zéro ou d'une virgule, ça peut avoir des conséquences un peu problématiques. Il faut avoir une bonne autonomie parce que on vous demande pas, on va pas tout le temps vous diriger pour dire il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Donc il faut savoir exactement quelles sont les missions et puis être assez autonome sur les choses. Donc j'ai des devis à faire, j'ai des devis, je m'en occupe. J'ai des factures, je m'en occupe. Voilà, c'est tout une façon de travailler, c'est de la méthodologie. L'important, c'est que tout soit fait et qu'on se sente bien sur la façon de faire et qu'on puisse mettre ça en place en se disant mes tâches du jour, mes tâches de la semaine, mes tâches du mois, mes tâches du trimestre, et qu'on puisse avoir une vision longue, parce que la comptabilité aussi, c'est des astreintes, soit pour le mois. Par exemple, je vais faire les payes, donc il faut que je demande à tout le monde, une semaine avant, des frais de déplacement. Parce que sinon, je n'aurai pas les papiers, et ça va être problématique. Et puis, il faut que je pense aussi, peut-être dans 6 mois, 8 mois, on va commencer à travailler sur le bilan de fin d'année, donc il faut que je prenne des rendez-vous avec mon expert comptable. Il faut que je regarde s'il ne manque pas de papier. Donc il faut avoir une vision sur le mois de travail, mais aussi l'année.
Quels sont les avantages et les inconvénients ?
Les avantages, je dirais que... Alors moi, ce que j'aime, c'est l'autonomie. Donc je sais ce que j'ai à faire et je peux travailler toute seule. Mais on travaille aussi en lien avec des personnes, forcément. Et donc à un moment, on est dans la chaîne de travail, je veux dire. On est un peu dépendant des autres. C'est-à-dire que moi, si j'ai besoin d'effectuer une tâche à telle date et que j'ai besoin des papiers ou d'informations et qu'on ne me les donne pas ou qu'elles sont mauvaises ou que ça ne va pas... Là, ça coince. Donc, il faut qu'au niveau de l'équipe aussi, que tout le monde joue le jeu et que tout vienne à moi de façon assez fluide pour que moi, je ne perde pas de temps dans mon travail. Mais moi, ce que j'aime bien dans ces métiers-là, c'est que même si on peut se dire, oui, c'est de la gestion, c'est pas très sexy, c'est des chiffres, je peux comprendre les personnes qui le voient comme ça. Moi, pour ma part, j'ai l'impression... de mon point de vue, que c'est plutôt prendre soin d'une structure.
Et vous rencontrez des difficultés ?
Les difficultés, elles peuvent être dans ce que j'expliquais, c'est-à-dire, des fois, il manque un papier, ou par exemple, moi, je suis arrivée il y a 6 ans. On peut très bien me dire à un moment, oui, mais moi, j'ai un problème sur il y a 15 ans en arrière. Il faut que tu me trouves les papiers. Alors c'est rangé où ? Et ça a été fait comment ? Et elles sont où les archives ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et tu prends ta petite lampe de spéléologue et ton petit marteau, et puis tu vas fouiner, et des fois ça peut être compliqué.
Si vous aviez une baguette magique, où verriez-vous dans 5 ans ?
Je pense que j'aimerais bien être toujours ici. Peut-être avec un métier qui aurait un peu évolué. Et peut-être avec... peut-être faire des choses un peu différentes. Ou aussi pour la structure, travailler sur des projets différents qui feraient que moi, j'aurais d'autres missions aussi. Mais il y a plein de choses à apprendre, en fait. C'est jamais fini, même si les missions, elles sont un peu toujours les mêmes. Il y a plein de façons de les faire. Ici, mais avec peut-être d'autres petites choses à faire, ça me plairait bien.
Du coup, il y a des évolutions possibles dans votre métier ?
Alors, en fait, par rapport à ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, dans les métiers de la comptabilité, c'est assez vaste, en fait. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut commencer à apprendre en bac pro, puis après, elle va faire une licence, puis après, elle va partir en stage dans un cabinet comptable, et puis après, elle va passer des examens pour être expert comptable, et puis après, peut-être, elle aura envie de passer le diplôme pour être commissaire aux comptes, que sais-je. Ça, c'est pour les personnes qui travaillent en cabinet, et ça peut être représenté, par exemple, par un bac plus 7. Donc, il y a aussi, Est-ce que moi j'ai envie de ça, par exemple? Moi, j'ai pas forcément envie de passer le diplôme pour être commissaire aux comptes. Je préfère avoir des missions plus variées dans une structure comme celle dans laquelle je travaille, par exemple. Mais ça, c'est mon choix. Donc en entreprise, faire de la comptabilité en entreprise, ça va pas être la même chose qu'être expert comptable dans un cabinet ou que moi, ce que je fais. Donc en fait, l'évolution, elle est toujours possible. Ça va dépendre aussi en fait de la structure dans laquelle on est embauché. Il faut regarder un peu la fiche de poste. Est-ce que c'est, je veux faire que de la comptabilité? Est-ce que je veux faire du marché public en plus? Est-ce que je veux m'occuper que des factures? Est-ce que je veux faire... C'est très vaste. Donc il y a plein de possibilités. On peut toujours évoluer parce qu'on peut toujours se former. Moi, j'ai plus une expérience de terrain, enfin presque, on va dire, que vraiment scolaire. Donc c'est toujours possible. Ça dépend vraiment des endroits où on veut travailler, en fait, des choix qu'on fait, professionnels. Ouais.
Merci de m'avoir accordé du temps.
Mais avec plaisir.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée à vous.
Bonjour, vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, la radio que l'on aime. Dans le Sonolab, cette semaine, c'est une petite émission qui est consacrée à la découverte des métiers. Myrdhe Ahmed, nous venons en fait d'écouter ton interview de Gabriella, comptable. Est-ce que cette interview t'a permis de mieux connaître le métier d'assistant comptable et administratif, puisque c'est celui que tu vises?
Non, pas vraiment. Je connais déjà ce métier, car j'ai déjà travaillé. Par contre, je connaissais les missions dans les entreprises du secteur privé, mais pas associatives. Et ça, c'était intéressant.
D'accord, merci beaucoup Myrdhe Ahmed. Je vous propose maintenant, chers auditeurs, d'écouter la deuxième interview qui porte sur le métier de régisseur son, interviewé par Adam et Jacques. Estelle est à la technique.
Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Alors bonjour, Frédéric Tréguier, alors, je suis régisseur général à Onyx à Saint-Herblain et avant de faire de la RGG, j'étais régisseur son. J'ai commencé à travailler en radio pendant 3 ans et ensuite dans le spectacle vivant.
Bah merci déjà d'accepter cette interview. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier de régisseur son?
Alors en spectacle vivant, en fait, j'ai travaillé dans 2 domaines d'activité. Le premier, c'était chez un prestataire de service, un loueur de matériel. Du coup, on avait en phase l'analyse des besoins des groupes, c'était essentiellement en musique, la préparation du matériel, l'installation de ce matériel, les répétitions, les balances avec les artistes, le bon déroulement du spectacle, et ensuite la même chose à l'envers, c'est-à-dire des montages, rangements, refaire la route, arriver au local, décharger le camion, ranger le matériel et... En travaillant comme permanent dans des salles de spectacle, c'est un peu la même chose, sauf que il y a un peu plus de travail de préparation et d'interaction avec les artistes qu'on accueille, du coup, que ce soit en danse, en théâtre, en cirque, en musique. La phase d'installation, en fait, est beaucoup moins pénible dans la mesure où les lieux sont équipés, quoi.
Ok, vous avez parlé un petit peu de votre parcours professionnel juste avant, mais est-ce que vous pouvez peut-être plus détailler avec votre parcours scolaire?
Ouais, alors du coup, je suis pas un bon exemple et plutôt un mauvais élève parce que j'avais fait des études d'électronique au départ et en fait, je travaillais comme bénévole dans une radio FM associative sur Dinard et ensuite sur Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, et c'est ce qui m'a amené à arriver sur Nantes. Fin 1987 pour travailler comme professionnel dans une radio qui n'existe plus maintenant. Et on bricolait à l'époque un peu de sono pour faire connaître la radio ou faire des supports d'événements publicitaires. Du coup, quand la radio dans laquelle je travaillais à Nantes a fermé, je me suis retourné pour travailler vers des sociétés de sonorisation. Donc ensuite, je me suis rendu compte que c'était chouette, mais il y avait plein de bases qui me manquaient, et du coup, j'en ai profité avec les formations professionnelles continues, justement, pour essayer d'attraper des modules pour asseoir vraiment mes connaissances et se perfectionner dans d'autres, dans d'autres domaines, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre statut ici ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, en fait, du coup, je suis fonctionnaire de collectivité territoriale. Le Théâtre Onyx appartient à la ville de Saint-Herblain. La mairie a décidé de municipaliser complètement le théâtre. Du coup, on est tous passés soit fonctionnaires, soit sous contrat à durée indéterminée de la fonction publique. Et pour ceux qui l'ont souhaité, passer le concours pour être fonctionnaire.
Alors moi, avez-vous eu des difficultés pour intégrer ce milieu professionnel ? Et par rapport à cette question, est-ce que vous avez vu des évolutions dans ce métier depuis que vous y êtes ?
Alors perso, non, j'ai pas eu de difficultés. Après, c'est toujours pareil, c'est une histoire de rencontre, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et puis voilà, quand on veut travailler, on y arrive. Je pense que on n'est pas beaucoup quand même à pas avoir fait les formations, des formations de base qui maintenant, en fait, c'est pareil, les métiers sont métiers de sonorisation, éclairage, tout ce qui est lié au spectacle vivant, ce sont des métiers qui sont relativement jeunes. Et donc à passer un peu à travers les mailles du filet, quoi, des formations. Là maintenant, en fait, ouais, l'évolution qui est plutôt pas mal aussi, on va plutôt tendance maintenant à avoir embauché des gens qui ont fait les parcours soit scolaires, donc avec les diplômes des métiers d'art en bac plus 2, comme il y a à Guisto par exemple, ou dans à l'ITEM au Mans, enfin il y a pas mal d'écoles qui font ça, ou des centres de formation professionnelle continue, comme Staff par exemple à Carquefou, qui forme techniciens et régisseurs son, lumière. Il y a aussi l'ISTS qui fait ça, le CFPTS, enfin il y a pas mal d'organismes connus et reconnus qui forment les gens. Donc du coup pour leur donner les bases, les bonnes bases professionnelles, et pour que les gens, ce personnel-là en fait, travaille aussi en sécurité pour eux et pour les autres, quoi, en fait. Ouais.
Et quelles seraient pour vous les qualités à avoir pour être un bon ingénieur son ?
Il faut être, je pense qu'il faut être passionné, passionné et curieux avant tout de pas s'arrêter à un genre musical ou artistique et vraiment s'ouvrir à toutes les cultures et trouver de l'intérêt dans ce qu'on fait, quoi.
Bah merci d'abord pour toutes ces réponses avec sympathie.
Oh bah merci à vous aussi, alors.
Vous êtes bien sur Jet FM 92.2 à Saint-Herblain. Partout lieu et en tout temps, et aujourd'hui il fait un soleil magnifique. Alors merci beaucoup Jacques et Adam pour cette interview, mais vous souhaitez nous préciser certaines petites choses.
Oui, Monsieur Tréguier a parlé de plusieurs formations, mais n'a pas précisé le nom complet de ces formations, comme par exemple l'ISTS, qui est l'Institut supérieur des techniques et du son.
Oui, et il a aussi parlé de STAF, donc, qui veut dire le Spectacle Technique Association Française de Formation. Donc c'est un organisme de formation qui forme du coup un public qui n'est pas qualifié pour ce milieu et qui est en situation de recherche d'emploi au métier du coup de technique son et lumière. Donc c'est un diplôme qui dure du coup un an, qui est reconnu par l'État. Et cette organisation, justement, cette association, elle est située à Carquefou. Donc pour les intéressés, ça peut convenir. Et par exemple, moi, j'aimerais intégrer cette formation. Voilà.
On tenait aussi à préciser que les régisseurs sont en grande partie, en tant que fonctionnaires, une minorité. Le statut le plus répandu est celui d'intermittent du spectacle, qui lui est rémunéré en cachet.
D'accord, merci beaucoup pour ces précisions, Jacques. Merci beaucoup pour ces précisions, Adam. Alors, nous allons maintenant écouter une interview sur le métier d'agent de sécurité. Interview qui nous est proposée par Djariou et Ashta.
Bonjour madame, moi c'est Djariou Diallo.
Bonjour, donc moi je me prénomme Samantha. Je suis agent de sécurité depuis 4 ans maintenant.
Je m'appelle Ashta, je viens de JetFM pour je vais savoir votre travail.
Donc, je suis agent de sécurité pour le magasin Atlantis. Je travaille pour une société qui est indépendante de Leclerc. J'occupe principalement l'espace de vidéosurveillance du magasin, qui consiste à surveiller principalement le vol en magasin et autres. Après, ça reste assez diversifié en termes de tâches.
En tant que femme, pourquoi vous avez choisi ce métier ?
Alors moi, j'ai découvert ce métier en fait en 2014 parce que mon patron était à la recherche d'une femme, justement pour pouvoir diversifier l'équipe, pour casser un peu le côté masculin du métier.
Depuis combien de temps étiez-vous sur cette poste ?
Alors, sur ce poste, au sein du Leclerc, ça va faire exactement 4 ans. Là, je suis en mi-temps au jour d'aujourd'hui. C'est un choix personnel hein, parce que j'étais à temps plein précédemment, sauf que trop de charges de travail. Donc, j'ai préféré réduire en fait mon temps de travail et je me suis investie sur d'autres postes, tels qu'agent de sécurité en événementiel. Donc, il m'arrive par moment, donc à l'occasion et à l'événement, de travailler soit sur des concerts ou soit au stade du FC Nantes, éventuellement. Et j'ai repris aussi un poste d'agent commercial en sécurité. Donc là, j'ai ma propre équipe que je gère, qui reste disponible selon les sites en fait, que j'arrive à obtenir et à négocier par la suite. Donc là, c'est un poste qui commence à évoluer petit à petit et j'espère que par la suite, je ferai que ça.
Quelles difficultés avez-vous avec ces métiers, du coup ?
Alors, les difficultés rencontrées en tant qu'agent de sécurité pour une femme, déjà, on est principalement sur des agents masculins. Donc, c'est pas forcément facile de trouver sa place en tant que femme auprès des hommes. Ça a des avantages et des inconvénients. Quand on arrive à faire sa place, on a une certaine osmose qui se crée entre nous. Et comme on est la seule femme, du coup, c'est vrai qu'on a tendance à être dorloté ou ils font plus attention à nous. Il y a le rôle de protecteur qui se met en place. Et moi, en tant que maman, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'aussi j'ai une vision différente parce que du coup, bon, certes, ça reste des hommes, mais des fois, ça les rassure aussi parce que des fois, j'agis en tant que maman et du coup, ça les rassure aussi. Des fois, ils ont besoin de conseils et c'est vraiment une équipe qui se complète. Après, c'est vraiment pas facile au début, en fait, parce qu'on a plusieurs personnalités et c'est vrai que pour s'adapter, il faut prendre des pincettes avec chaque personne selon la personnalité de chaque agent.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier et qu'est-ce que vous n'aimez pas ?
Alors, ce que j'aime bien dans ce métier, déjà, c'est quand je me lève le matin, j'ai envie d'aller travailler. J'y vais pas à reculons. On a une super bonne ambiance au sein de l'équipe, donc ça, déjà, c'est quelque chose de très plaisant. Après, il y a le côté des choses aussi, donc ça peut arriver. Quand on a des interpellations, je peux intervenir sur certains cas. Sur des choses qui peuvent être liées à des enfants ou à des femmes ou éventuellement des personnes un peu dérangées, ça dépend en fait. Ce qui est très plaisant, c'est que du coup, en fait, j'ai un certain rôle qui me permet d'être actrice en fait de ce que je veux faire. Donc, c'est-à-dire que je peux me permettre en fait de prendre des initiatives. Sauf qu'il faut quand même que je réfléchisse à ce que je dois faire parce que je mets en jeu la sécurité de mes collègues et des employés et des personnes donc qui je dois sécuriser sur le long de la journée.
Et vous avez fait avec formation ou stage ou diplôme ?
Oui. Alors avant d'intégrer mon poste d'agent de sécurité, effectivement, j'ai passé une formation qui s'appelle le CQP-APS. C'est une formation obligatoire. Pour intégrer les métiers de la sécurité, on est obligé de passer par cette formation-là. Donc c'est très très court.
Est-ce que c'est obligatoire, diplôme ou juste formation, c'est tout ?
La formation est obligatoire et à la suite de la formation, ils nous donnent le diplôme. Donc, il n'y a pas de choix, c'est obligatoire. Autrement, on ne peut pas accéder. Suite à cette formation-là, en fait, on attend un petit délai de 1 mois. Ça dépend de l'engorgement des services ou qui nous attitre en fait une carte avec un numéro qui est semblable à une pièce d'identité. Donc, du coup, c'est un numéro national. Là où on va, là où on peut intégrer un poste, par rapport à notre numéro, ils savent qui on est. Est-ce qu'on a déjà été interpellé ? Est-ce qu'on n'a pas d'histoire ? On n'a pas commis de délit ? C'est très très strict à ce niveau-là. Peu importe le délit qu'on ait pu commettre, à partir du moment qu'il est enregistré comme un délit ou une simple garde à vue, ça peut nuire à notre emploi par la suite.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir une suppression de la carte ?
Ah oui, oui, tout à fait, oui.
Compliqué aussi, pour les femmes ?
Alors en fait, compliqué, moi je dirais pas compliqué. Je pense que l'envie... C'est ce qui prend le dessus. À la base, j'étais dans le commerce. De 2009 à 2013, j'ai eu une période d'inactivité pour m'occuper de mes enfants. Et puis, on m'a parlé des métiers de la sécurité. Hein. C'est une chose que je n'avais pas du tout en tête à faire comme métier. Et puis, par la suite, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Donc, j'ai essayé. Dès les premiers instants où que j'ai commencé à voir un peu le décor du métier, c'est vrai que ça m'a plu. Ça m'a plu, je me suis investie et on prend de l'assurance avec le fil du temps. Et je pense qu'aussi, il y a une certaine partie de social quand on voit des fois des gens qui sont en détresse, parce que pour nous, c'est pas un plaisir en fait forcément d'aller soit sur une altercation ou sur un vol ou peu importe, ou sur une disparition d'enfant. Il faut trouver les mots pour pouvoir rassurer la personne, parce qu'on n'est pas là pour juger en fait les personnes qu'on va interpeller ou autre. On est là aussi en quelque sorte pour leur venir en aide, parce que c'est pas forcément des gens en fait qui commettent des délits parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce que des fois il y a des gens qui n'ont pas le choix, et si on peut lui venir en aide, ben on en est d'autant plus fiers, quoi.
Et je voulais savoir comment vous détectez les gens qui volent.
Alors ça, c'est pas facile à expliquer. Donc soit elles sont signalées par les agents de sécurité qui se trouvent à l'entrée du magasin, qui nous demandent une surveillance, donc du coup par le biais de la vidéosurveillance, ou éventuellement en civil à l'intérieur du magasin. Donc suite à ça, on commence une filature. Après, au bout de 5, 10, 15 minutes, par rapport au comportement de la personne, on décide en fait de donner suite ou non. Il y a aussi donc tous les employés qui sont en rayon. Toutes les personnes qui travaillent au sein du magasin, s'ils voient un comportement anormal, ils ont un numéro qu'ils peuvent nous joindre. Et du coup, par rapport à la description qui est faite, donc on confirme en fait qu'on a bien l'individu en visu. Et du coup, c'est à nous en fait d'agir et de voir éventuellement s'il y a quelque chose à faire, si on doit continuer à poursuivre la personne ou bien s'il n'y a rien de particulier. Après, en permanence, en fait, on a le système de surveillance qui est mis en place pour pouvoir éventuellement surveiller les personnes s'ils ne volent pas à l'intérieur du magasin ou ils ne dégradent pas de la marchandise. Donc ça aussi, c'est notre rôle aussi d'intervenir en magasin pour pouvoir justement rappeler les consignes aux clients. Car malgré tout, on est dans un magasin, mais il y a des consignes à respecter. Donc on se doit de les faire appliquer.
À long terme, peut-on évoluer sur d'autres postes ?
Alors oui, moi j'ai eu cette chance en fait de pouvoir évoluer car je suis passée, en fait je suis simplement sur Atlantis en tant qu'agent prévol, donc c'est un poste voilà, que tout le monde peut occuper. Par rapport à mon expérience personnelle, j'ai évolué dans le sens où qu'au jour d'aujourd'hui je suis agent commercial, donc je passe à un autre grade de la sécurité. C'est un peu différent parce que du coup je ne suis plus employée de sécurité, c'est moi qui gère les employés de sécurité, donc c'est autre chose, mais il y a des possibilités d'évolution. Après, c'est vrai que si on veut pas rester en tant qu'ADS, il y a plusieurs corps de sécurité, voilà, donc agent de sécurité, ADS, excusez-moi, c'est agent de sécurité. Il y a possibilité en fait de passer sur un SIAP qui a plusieurs niveaux, qui comporte plusieurs niveaux, donc SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. Donc là, du coup, on passe sur de la sécurité incendie. Là, on n'est plus en bâtiment, on part sur des structures administratives, hospitalières ou autres.
Merci beaucoup, madame.
Je vous en prie.
Merci, madame.
Merci à vous.
Vous êtes sur JetFM 91.2. Merci beaucoup pour cette interview qui m'a appris, moi, personnellement, beaucoup de choses en ce qui concerne le métier d'agent de sécurité. Est-ce que ce métier vous plaît ? Est-ce que vous souhaiteriez à votre tour l'exercer ? Par exemple, vous, Jariou.
Au fait, quand on m'a proposé de faire cette interview, ce qui m'a plu, c'était le fait de pouvoir rencontrer un professionnel d'un métier plutôt physique et contraignant. Puis ce qui est très intéressant, c'est le fait que cette personne soit une femme dans un métier connu pour être typiquement masculin. Mais ce n'est pas un métier que j'aimerais faire, mais cependant c'est un métier que je respecte.
D'accord, merci beaucoup, Jaryu. Et toi, Ashta, est-ce que c'est un métier que tu envisagerais exercer?
Bonjour à tous les auditeurs, contrairement à Jaryu. Toutes les contraintes qu'a le métier d'agent sécurité me poussent à m'intéresser. Elle m'a donné beaucoup d'informations qui me motivent pour le faire.
Merci beaucoup, Ashta. Jade, notre envoyée spéciale, tu étais présente pour cette interview et tu voulais, il me semble, à ton tour nous préciser certains éléments.
Oui, ici on a entendu l'interview sur l'agent de sécurité, mais deux autres interviews ont été réalisées sur les métiers d'hôtesse de caisse et d'employé en libre service. Vous pourrez entendre ces interviews en podcast sur www.jetfm.assos.fr. Ces personnes travaillant au Leclerc d'Atlantis nous ont permis à tous d'effacer grand nombre de stéréotypes autour des métiers qu'ils représentent.
Merci beaucoup, Jade. Le Sonolab, cette semaine, ça nous parle des métiers que l'on connaît moins. Alors, certains aiment bien travailler, certains ne veulent plus travailler. C'est une drôle d'histoire et je vous envoie une chanson à ce sujet. Pink Martini, Je ne veux pas travailler.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans le Sonolab à l'occasion d'une semaine de découverte des métiers. Alors vous allez vous dire, bon, qu'est-ce qu'il leur prend? Il nous passe Pink Martini, Je ne veux pas travailler. Eh bien nous aussi, quand même, on veut travailler, d'accord, à l'occasion du Sonolab. Et cette fois-ci, il s'agit de Estelle qui est allée interviewer Liuzella Rimola de la compagnie Gioco Cosi. Adam étant à la régie.
Bonjour, donc nous sommes avec Madame
Rimola.
Donc pourquoi avez-vous choisi ce métier et quelles motivations ont été pour vous pour faire ce métier-là?
Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire que ça n'a pas été un choix. C'est quelque chose que, tout simplement, je n'aurais pas pu faire autre chose. C'est-à-dire, j'ai vécu une enfance à la campagne, en Italie, je suis plutôt âgée, ah, donc c'était il y a longtemps, la danse, c'était quelque chose qui était très 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 loin de moi, notamment la danse classique. Et puis voilà, à l'école, au collège, une copine présente pour le spectacle de fin d'année du collège une danse classique. J'étais éblouie. C'était juste comme si, voilà, c'était le déclic, c'était, voilà, il faut que je fasse ça, c'est ça, je veux faire ça. Et donc, à partir de là, bah, je tirais ma mère par la manche pendant un an pour qu'elle m'inscrive à l'école des danses. Donc, ça, c'était dans un premier temps. Qu'est-ce qui m'a amenée à la danse ?
D'accord.
Un besoin, en fait.
Du coup, je voudrais savoir par quel moyen vous avez procédé pour entrer dans la danse. Je sais qu'il y a les écoles de jazz, donc comment vous avez fait pour vous retrouver ici ?
D'accord. Alors donc, j'ai commencé la danse, du coup, c'était la danse classique, hein, puisqu'en Italie, là-bas, à cette époque, il n'y avait pas de choix. C'était de la danse classique ou de la danse classique. Donc, j'ai fait de la danse classique, c'était mon choix. Ensuite, j'ai rencontré, donc, j'ai fait mon cursus dans une école. Ensuite, j'étais au Centre professionnel des métiers du spectacle à Milan. Et là, il y avait également la possibilité de faire de la danse jazz. J'ai essayé, hein, j'ai fait de la danse jazz technique Matox. Et Caroline Carlson est venue faire un stage de danse là-bas. Et ça a été bah, pareil, comme quand j'ai commencé, même éblouissement. C'est ça que je veux faire. Voilà, j'ai choisi ma danse, je veux faire comme Caroline Carlson. Donc, pour le coup, j'ai décidé de venir en France. J'ai pris des cours avec Peter Goss à Paris, puis d'autres professeurs, par des stages. Hein. Du coup, je n'ai jamais eu une formation vraiment, suivie sur la danse contemporaine, parce que c'était trop tard pour moi, c'était trop tard pour, par exemple, tenter l'examen du CNDC ou autre chose. Par contre, j'ai une formation pédagogique, hein. Du coup, c'est un décès d'Angers. Voilà.
Pour devenir danseuse professionnelle, au tout début, quelles compétences nous devrions avoir ?
L'envie avant tout, la passion. Je pense qu'il faut à la fois le désir de travailler quelque chose qui est très technique, fort engageant, à la fois rester dans la disponibilité, tout au moins, là je parle vraiment de la danse contemporaine, hein. Je parle du point de vue de la danseuse, du point de vue de la chorégraphe que je suis aussi. Pour moi, les deux rôles se sont souvent et assez tôt mélangés, donc c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui me fait parler comme ça. Et puis, bah, à mon sens, il y a la nécessité de avoir envie d'offrir tout ce travail-là, donc de communiquer. Voilà, le plaisir de communiquer, le besoin, je dirais même, de communiquer, parce que la danse, comme tous les arts, à mon sens, hein, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'elle n'est pas faite pour rester dans une boîte. Voilà, on ne danse pas dans sa chambre, on danse pour offrir. Voilà.
Je voulais savoir si vous pouviez me raconter une journée type de danseuse, soit en spectacle ou soit ici à Radio Jet FM.
Après, voilà, si on raconte une journée type, par exemple le jour d'un spectacle, voilà, on va dire qu'on va arriver les matins quelque part, ou alors on est arrivé à la veille, on a installé la veille ou on installe les matins même, ça dépend. Bon, la plupart du temps, on installe la veille. Les matins, il y a un temps de préparation dans lequel on révise un petit peu certaines parties, on fait des repérages d'espace, parce que chaque scène est différente. Donc forcément, il faut s'adapter à lieu. Alors nous, en plus, on fait parfois du travail en plein air. On a des spectacles qui se jouent pas forcément dans des salles de spectacle, mais un peu partout. Ça peut être une salle des fêtes, ça peut être dans une école. Forcément, il y a vraiment un travail d'adaptation au lieu. Et puis, par la suite, voilà, il y a, selon le temps qu'on a à disposition, il y a juste ce qu'on appelle un raccord, hein, c'est-à-dire un temps dans lequel les éclairages, les artistes se mettent tous ensemble, le son, s'il y a du son ce jour-là, si le spectacle est sonorisé. Voilà, on fait juste les repères pour ce lieu-là, ou alors ça peut être une répétition générale, c'est-à-dire enchaîner tout le spectacle avant de le jouer après le soir ou l'après-midi. Voilà, ça c'est une journée type quand on joue un spectacle, par exemple en fin d'après-midi ou en soirée. Alors après, il y a des journées qui sont beaucoup plus sportives, parce que, comme je disais, on fait des spectacles dans des crèches, des écoles, et alors là, il n'y a pas d'accueil la veille, il n'y a pas d'installation la veille. Pour les petits, souvent, on joue les matins, donc concrètement, c'est debout 4h30 le matin. La route, on arrive, on décharge nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas des techniciens pour nous accueillir et tout ça. On s'échauffe à toute vitesse et on y va. Voilà.
Alors, j'ai une question un peu indiscrète. En fait, je me suis renseignée sur Internet. Je sais que quand on fait de la danse ou quand on veut devenir danseur, on ne gagne pas forcément sa vie facilement. Ou il faut faire beaucoup de casting ou des choses comme ça. Donc, je voulais savoir, vous, comment vous avez réussi à vous en sortir
Mais à partir du moment où on arrive à travailler régulièrement, il y a cette aide qui est le statut d'intermittent du spectacle, effectivement, qui permet de pallier au temps où on ne peut pas travailler directement parce qu'on est en train de rechercher du travail ou de créer du travail. Voilà.
Alors, juste une petite question assez rapide. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous dansez, l'émotion ?
Du lien, j'ai envie de dire. Lien de mon propre corps à l'espace, au son, aux autres danseurs, interprètes, à l'espace scénique tel qu'il est ou dehors, et puis les liens avec les gens qui sont spectateurs, et ça vaut dans les deux sens. Ça vaut quand je suis spectatrice et quand je suis interprète, en fait.
Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
Vous êtes toujours sur GTFM dans l'émission Sonolab, dédiée cette semaine à différents métiers. Vous venez d'entendre une interview de Luisella Rimola, danseuse, chorégraphe, interviewée par Estelle et à la technique Adam. Alors Estelle, j'ai quelques questions pour toi. Dans ton interview, vous parlez de CNDC. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors le CNDC, c'est un centre national de danse contemporaine qui se trouve à Angers. C'est pour avoir le diplôme national supérieur et professionnel de danseur.
Et toi, aimerais-tu aller dans une école spécialisée dans la danse ?
Oui, sur Nantes, ça s'appelle le Studio de la Danse. Ça se trouve à Hérodière et il propose une formation professionnelle sur 3 ans.
D'accord, merci. Dernière petite question, quelle danse aimerais-tu pratiquer ?
Le hip-hop.
Merci beaucoup Estelle et à bientôt. Pour ma part, j'ai également interviewé Luisella Rimola, mais pour le côté communication événementielle. Vous pourrez donc retrouver cette interview sur le site suivant, www.gtfm.asso.fr. Nous finissons avec la dernière interview visant le métier d'agent valoriste, interviewé par Olivier et à la technique Jacques.
Alors nous voici ici à la boîte à récup, une ressourcerie qui est située 60 rue Courteline à Saint-Herblain. Et donc je vais vous laisser mes deux invités se présenter.
Bonjour, donc Jean-Pierre, je suis le président de la boîte à récup.
Bonjour Léa, donc je suis la salariée de la boîte à récup.
Bonjour Jean-Pierre, merci pour votre accueil. Est-ce que vous pouvez nous exposer le projet de la boîte à récup ?
Oui, tout à fait. Donc si vous voulez, moi j'ai toujours été intéressé, passionné par tout ce qui était environnemental, tout ce qui était gaspillage. Donc j'ai commencé mon expérience dans le bénévolat, dans une structure qui s'appelle Station Service à Rezé. J'étais bénévole pendant 1 an et demi et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc ça a été pour moi un marchepied pour recréer la boîte à récup. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas créer une asso dans mon quartier d'origine, c'est-à-dire sur Saint-Herblain, Beauséjour, Breil. Donc c'est un quartier où il y avait très peu de ressourceries. Et donc voilà, c'est encouragé par Philippe, donc le président. Et on a ouvert notre local en décembre 2016, donc ça fait 15-16 mois.
D'accord, merci. Léa, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre rôle au sein de la boîte à récup ?
Oui, donc en fait, je suis vendeuse valoriste. Donc le principe, comme l'a expliqué Jean-Pierre, c'est de récupérer les objets, leur donner une seconde vie. Donc on fait des recherches au niveau des prix, on fait en sorte de les exposer bien comme il faut dans le local. Voilà, après il y a tout ce qui est communication, la réserve, voilà, et puis accueillir le client et vendre les objets.
L'intérêt pour moi, c'était de monter quelque chose, mais qui soit différent. Essayons d'être innovants et de faire quelque chose qui n'est pas déjà fait. C'est pas évident, mais nous, on s'est dit, donc livre tout ce qui est objet culturel, voilà, en premier. Et puis après, on a un petit peu étendu à des jeux de société, des jouets, de la vaisselle, des bibelots, ce genre de choses, plutôt du petit objet. Je voulais dire aussi que quand on a débuté ici, pendant 2 mois, j'ai tenu seul le local. Je ne pensais jamais avoir des bénévoles. Et au bout d'un peu plus d'un an, on se retrouve avec une dizaine de bénévoles et 2 salariés. Donc c'est pour moi une aventure humaine très intéressante.
Léa, par exemple, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir, de postuler en fait, pour travailler dans une ressourcerie ?
Alors en fait, je connaissais pas trop le terme ressourcerie. À vrai dire, j'avais déposé mon CV sur Pôle emploi et c'est Jean-Pierre qui est venu me contacter. Et voilà, je suis partie dans l'aventure.
Au départ, ça n'a pas forcément été évident de recruter parce que le terme d'agent valoriste n'est pas quelque chose de connu auprès du public en recherche d'emploi et puis d'un plus large public en général. Ce sont des nouveaux métiers et on a été obligé de changer un moment l'annonce parce qu'on voyait qu'on avait très très peu de demandes parce que les gens tout simplement ne savent pas ce que c'est. Donc on va rappeler brièvement que valoriste, c'est mettre en valeur des objets qui sont destinés, il faut le dire très, très clairement et crûment, à la benne ou à la déchetterie, qui pour beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous n'auraient plus d'intérêt, mais qui en ont encore, donc on les revalorise, on va dire, on les sélectionne, on leur redonne une seconde vie en les mettant un petit prix dans nos locaux, et c'est aussi ce que font les autres structures, et on a pu sauver comme ça, je dis n'importe quoi, ça peut être des vélos, beaucoup de livres forcément, des vinyles, il y a un monsieur qui avait toute une collection de transistors des années 60 qu'il voulait jeter, carrément, et il est venu nous voir un petit peu en désespéré en disant bon, si vous les prenez pas, et c'est vrai que c'est des choses qui avaient vraiment une certaine valeur et voilà, et qui font partie du patrimoine de beaucoup de gens, donc c'est vraiment intéressant. Donc après, c'est aussi des choses que les gens ne pourraient pas s'offrir autrement, donc il y avait vraiment un côté social. On nous amène des objets qui sont assez improbables. On nous a amené il n'y a pas très longtemps un appareil pour développer les photos des années 60. Par ce métier, on apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On apprend l'histoire des objets, on rencontre du public. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de passionnant.
D'accord. Léa, est-ce que je peux vous poser la question, savoir ce qui vous plaît dans cette activité que vous exercez ?
J'ai la chance de travailler dans une structure où il y a une bonne ambiance, tout se passe bien. Sourcerie, il faut dire qu'être dans l'esprit de ne rien jeter, de voilà, revendre à petit prix, Enfin, c'est une super aventure humaine et avoir la chance de travailler là-dedans, c'est vraiment top, quoi.
Vous vous inscrivez donc dans le schéma qui est celui de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement des éco-solis auxquels vous avez participé récemment ?
Oui, tout à fait. Donc, on a participé aux éco-solis ce week-end et c'est vraiment une très, très belle expérience. Donc, il y avait 10 000 spectateurs. Et donc là, il y a tous les partenaires qui viennent de la Loire-Atlantique, parce qu'il y a, même dans les campagnes, il y a des ressourceries, il y a des recycleries. Donc voilà, donc ça permet aussi de nouer des liens avec d'autres associations, puis de présenter notre travail au public. On peut toucher d'un seul coup un grand public. Et en termes de pécunier, il faut dire ce qui est, parce que l'économique est malgré tout important aussi pour notre asso, c'est vrai que là, c'est très intéressant, parce que quand on a la chance de toucher beaucoup de gens, forcément, donc c'est une rentrée d'argent importante pour nos structures.
Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre, que l'économie sociale solidaire, que les ressourceries sont des structures qui vont être amenées à se développer, étant donné l'abondance de biens, ou est-ce que cette notion de valoriste n'est pas encore assez entré dans le schéma économique actuel?
Comment dire ça? Je pense que c'est amené à se développer, car justement, ce n'est pas encore assez connu. Déjà, on voit qu'en étant moyennement connu, on va dire, du grand public, on voit qu'il y a... Là, on prend la braderie sur une journée 10 000 personnes, c'est quand même énorme, et on voit que c'est amené à se développer. Et il y a une volonté des gens, de consommer différemment.
Est-ce que les clients ont des requêtes, voire des exigences, on ne sait jamais, particulières ?
Alors donc, en termes de clients, c'est très varié. Donc on a des clients qui viennent de milieux peu aisés et qui retrouvent ici des objets, donc comme je disais tout à l'heure, qu'ils ne pourraient pas s'offrir ailleurs. Enfin voilà, petit prix. Après, on a des collectionneurs. voilà, qui viennent aussi pour des objets, on va dire, un peu plus vintage. Après, on a aussi des gens, on en est conscient, c'est pas le propre au départ d'une asso comme les nôtres, mais bon, on est tous confrontés. Il y a aussi des gens qui viennent pour acheter et pour revendre aussi derrière. Voilà, c'est aussi un marché, donc... c'est peut-être ceux-là qui sont le plus exigeants et qui vont plus négocier les prix, par exemple. Je pense à un domaine plus particulier, c'est tout ce qui est vinyle. Très clairement, là, on a un boom sur les vinyles qui est énorme. Et on manque de... Si des gens qui nous écoutent sont prêts à nous donner des vinyles, il n'y a pas de problème, parce que nous, on est preneurs, comme des CD, comme des DVD, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a une forte demande. Il y a quelques années, c'est vrai que les vinyles, ça, c'était complètement mort, personne n'en voulait, et maintenant, on a vraiment, vraiment une très forte demande, et les gens sont assez exigeants sur ce qu'ils recherchent. Donc voilà, là, on a des collectionneurs, on a des gens qui revendent, on a aussi des passionnés qui viennent, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on... Les gens qui viennent régulièrement donc ne verront jamais la même chose. Nous, on a des gens qui viennent toutes les semaines ici parce qu'on a aussi des dons qui arrivent régulièrement de changer. Si on va dans un magasin, on a envie de voir des nouveautés. Donc là aussi, on a nous ce devoir de proposer des choses qui peuvent être intéressantes aux gens. Après, sachant aussi que en termes de dons, c'est très irrégulier. Il y a des fois où on peut avoir beaucoup de dons, des fois on en a moins. Tout ce qu'on remet en vente doit être quand même en état correct. S'il y a des livres qui vont être déchirés et tout, qui vont être en trop mauvais état, on les met recyclés. Il y a un respect par rapport au public et ils doivent être quand même dans un état tout à fait correct.
Eh bien, merci Jean-Pierre, merci Léa pour votre accueil, et ainsi que César et Jacques à la technique, et pour les avoir accueillis et nous avoir accueillis avec un délicieux café.
Merci à JTFM, voilà. Et puis j'espère que cette émission pourra peut-être faire découvrir aux plus jeunes auditeurs notamment un petit peu une face cachée d'un métier qui est pour l'instant assez peu connu, mais qui sera amené certainement à recruter en termes d'emploi actuellement. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable.
Nous sommes toujours sur GTFM, nous venons d'entendre l'interview d'Olivier. Olivier, as-tu quelque chose à rajouter ?
Alors, merci Anna-Maria de me passer la parole. Alors, Jean-Pierre est un homme passionné et sur GTFM, on ne jette rien, on fait un petit peu comme Jean-Pierre. Alors, il faut savoir que l'interview complète de Jean-Pierre, qui nous parle aussi du domaine managérial, enfin, ça reste une entreprise quand même. Hein. Ce côté-là, j'ai trouvé très très intéressant. On n'a pas pu retenir pour des raisons de temps. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait un aspect aussi social dans les activités associatives qui étaient proposées par la ressourcerie. Ce n'est pas simplement un lieu où l'on dépose des choses, mais c'est aussi un lieu où l'on crée du lien. Et je pense que c'est un schéma économique qui, à mon sens, a beaucoup d'avenir.
Merci beaucoup Olivier, et à bientôt.
L'émission va bientôt toucher à sa fin. Anna-Maria, on a quelques remerciements à faire.
La réussite de cette formation n'a pu se concrétiser qu'avec l'écoute et le professionnalisme d'Alexandra et César à la technique. Enfin, nous tenons tout particulièrement à remercier l'ensemble des professionnels qui ont bien voulu donner de leur temps pour répondre à nos questions. Merci à Adam Le Mindu pour la musique. Ce fut une expérience très enrichissante.
Voilà, et puis à mon tour, donc sur les participants, je vais quand même répéter une dernière fois vos noms. Estelle, Olivier, Adam, Jacques, Mirdamud, Ashta, Jariou, Jad, l'invité surprise, Anna-Maria, merci à tous parce que je le redis une fois encore, en 4 jours, vous avez tout appris, vous avez tout fait. C'est vous qui avez écrit les questions pour les interviews, c'est vous qui avez manié les enregistreurs, qui avez posé les questions, qui avez fait en grande partie le montage qu'on vient d'entendre et puis qui avez pris la parole en public aujourd'hui sans aucune expérience préalable. C'était courageux et puis j'espère que vous avez apprécié l'expérience. Un grand merci à mon acolyte pour l'animation de cet atelier, César, et puis à nos partenaires sur cet atelier, donc la Maison de l'Emploi de Bellevue, en particulier aux deux Sophie et à Christelle qui nous ont épaulés pour la mise en place de cet atelier, et puis à nos partenaires financiers aussi, la préfecture et la Fondation Massif. Pour se quitter, est-ce que vous avez envie d'ajouter un tout petit mot sur l'expérience que vous avez vécue pendant 4 jours ? Est-ce que l'un ou plusieurs d'entre vous ont envie de nous dire un petit mot ? Encore un peu de timidité, même après 4 jours d'atelier. Estelle ?
Je trouvais que ces 4 jours étaient très enrichissants. On a pu faire des connaissances, on a pu découvrir un métier, on a pu découvrir des façons d'écrire, je ne sais pas, des...
On a vraiment on a évolué, je pense, pendant 4 jours et ça va nous faire grandir et puis on va garder un bon souvenir de ça, je pense.
Je crois qu'on gardera aussi vraiment un bon souvenir du travail collectif parce que une des choses moi que je retiendrai de cet atelier, c'est la solidarité qu'il y a eu entre vous, entre nous. Et du coup, je vous propose qu'on se quitte justement avec un au revoir collectif à plusieurs voix pour les auditeurs de Jet FM. Vous êtes prêts? On y va? 1, 2, 3.
Au revoir.